Film et moi, l'émission cinéma mensuelle de Nathalie Islaël. Je suis ravie de vous retrouver pour le deuxième épisode de la série mensuelle Film et moi sur Jet. Dans cette parenthèse cinéma, il y aura aujourd'hui des coups de cœur pour des films d'ici et d'ailleurs, récents ou pas, des actus cinéma locales et nous ferons un gros plan tout particulier sur le cinéma associatif dans la région. Et pour échanger sur la vivacité des cinémas associatifs qui participent grandement à faire vivre la proposition de sortie cinéma pour le plus grand nombre, nous recevons en studio Sylvie Vinette et Bénédicte Chetano, toutes les deux bénévoles au cinéma Saint-Paul à Rezé.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Elles nous parleront de leurs émois de cinéma, de ce qui les a amenées à s'engager, du fonctionnement d'un cinéma associatif et de l'envers du décor. Savez-vous qu'il existe 35 cinémas associatifs en Loire-Atlantique ? Le département détient le record de France du nombre de cinémas associatifs. Alors, je ne vais pas tous les nommer, mais sachez que le plus ancien, c'est Générique, comme son nom l'indique, situé à Éric, au nord du département. Et ce cinéma, il existe depuis 1905. Le plus connu à Nantes, la plus ancienne salle de cinéma permanent, c'est Sylvie, Bénédicte ?
Le cinématographe.
Bravo, oui Sylvie, c'est le cinématographe. Alors le cinématographe, il programme des films de patrimoine, des petits bijoux de cinéma, souvent en version restaurée, qu'on peut revoir avec joie sur un vrai grand écran, dans une très belle salle, avec des fauteuils rouges velours très confortables. Le cinématographe propose aussi des films plus récents et une riche sélection de films pour le jeune public, pour donner le goût du cinéma aux enfants dès leur plus jeune âge. En novembre, dans la sélection cinéma d'hier et d'aujourd'hui du cinématographe, un film a retenu particulièrement mon attention. Je vous en parle après ça, pour vous mettre dans l'ambiance. So Alors, Sylvie Bénédicte, est-ce que vous avez reconnu cette musique pour nous plonger un peu dans l'ambiance de la région du réalisateur dont je voulais vous parler?
Alors, moi, je dirais Afrique, mais à part ça, je ne vois pas.
Oui, Sylvie?
Mali.
Oui, alors, c'est bien, c'est tout à fait ça. C'est la chanteuse Fatoumata Diawara. Fatoumata Diawara, elle a aussi fait du cinéma. On la voit en particulier dans le très beau film Timbuktu de Abdarahmane Sissoko, je ne sais pas si vous l'avez vu, dont elle a aussi composé la musique. Alors, ce n'est pas d'elle dont je voulais vous parler, c'est d'un réalisateur qui vient de la même région, le même endroit du monde, de l'Afrique de l'Ouest, et c'est le réalisateur Ousmane Samben. Donc, le cinématographe programme un de ses films qui s'appelle « La Noire de point de suspension ». Donc c'est un film qui date de 1966 et le programmer, c'est aussi montrer que le cinéma du continent africain, il est bel et bien entré dans l'histoire du cinéma. Ousmane Samben, c'est un écrivain, réalisateur, scénariste sénégalais, il est né en 1923 et La Noire de est le premier long métrage du continent africain. Donc c'est l'histoire de Diouana, une jeune fille sénégalaise embauchée à Dakar, par une famille blanche pour s'occuper de leurs enfants à Antibes. Donc elle part à Antibes, mais elle ne verra jamais les enfants. Elle devient la bonne à tout faire et elle va de déception en désillusion. Et Diouana, elle est interprétée par Mbissine Thérèse Diop. Elle débarque en France sur ses talons avec sa robe à pois dans l'espoir de s'émanciper, d'avoir une vie meilleure socialement. Mais très vite, elle se trouve emprisonnée et réduite à un rôle d'esclave. Elle étouffe et elle désespère. Le réalisateur Ousmane Samben, il était vraiment ancré dans son temps et il s'est inspiré d'un fait réel lu dans le journal qui parlait du suicide d'une femme de ménage africaine en France dans les années 60. Il en a fait l'héroïne tragique de son film. Et ce film, c'est en quelque sorte une parabole sur le néocolonialisme et sur la traite des esclaves. Donc c'est le portrait, un portrait brut, un portrait sans concession sur les rapports de domination sociale et raciale, dans une ambiance très nouvelle vague, un film en noir et blanc. Et finalement, ce portrait, il est encore cruellement d'actualité, tant parfois les regards peinent à être décolonisés. Ousmane Samben, il est considéré comme le père du cinéma africain. Il a ouvert la voie. Et aujourd'hui, le cinéma ou les cinémas d'Afrique, ils ont leur place dans les plus grands festivals. Je citerai par exemple Les Filles d'Olpha, bouleversant documentaire de la Tunisienne Kaouter Benania, qui a été récompensée par 4 prix à Cannes et par l'Oscar du meilleur film documentaire en 2023. Il y a aussi le très beau Banel et Adama, qui a été sélectionné à Cannes aussi en 2023, de Ramata Toulaïsi, qui est une réalisatrice franco-sénégalaise. Et sans oublier le splendide film Le Bleu du Caftan, de la Marocaine Mariam Touzani, qui a été primée dans la catégorie Un certain regard à Cannes. Donc ces trois réalisatrices puissantes, elles s'inscrivent pleinement dans les questionnements d'hier et d'aujourd'hui sur les relations amoureuses, sur la liberté, l'émancipation, la domination. Et elles contribuent finalement chacune à leur façon à déconstruire nos regards sur la diversité du continent africain et de ses habitants. Et en cela, elles sont vraiment fidèles au travail qui a été entamé par Ousmane Samben. Alors, allez au cinématographe le vendredi 1er novembre, le dimanche 3 novembre, pour découvrir cette œuvre majeure du grand Ousmane Samben. Et vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Film et moi sur Jet, en compagnie de Sylvie Vinette et Bénédicte Chetano, bénévoles au cinéma Saint-Paul à Rezé.
Moi, Marjane, future prophète, ai décidé que, premièrement, tout le monde doit avoir un bon comportement. Deuxièmement, tout le monde doit faire une bonne action.
Nous sommes en train de vivre un moment historique.
Troisièmement, plus aucune vieille ne souffrira.
Si c'est comme ça, je veux bien être ta première disciple.
C'est vrai? Génial!
Back on the street.
T'as vu une révolution et une guerre.
Ah ouais?
T'as vu beaucoup de morts?
Quelques-uns.
Waouh. Balèze.
Dès que je dis d'où je viens, on me regarde comme si j'étais une sauvage. Pour eux, nous sommes tous des cinglés fanatiques qui passent leur temps à hurler en se tapant dessus.
Dans la vie, tu rencontreras beaucoup de cons. Reste toujours digne et intègre à toi-même.
Alors, Bénédicte, est-ce que tu as reconnu ?
Ah oui, c'est Persepolis de Marjane Satrapi.
Oui, tout à fait.
Voilà, un film que j'ai beaucoup aimé.
D'accord. Alors, c'est le premier long-métrage hein, d'animation oui. de Marjane Satrapi et de Vincent Parono, qui a été réalisé en 2007. Il a eu le prix du jury à Cannes à l'époque. Oui. C'est une saga familiale, c'est un roman d'apprentissage, c'est une œuvre politique aussi. Et ça a été inspiré la BD de Marjane Satrapi, qui a été publiée en 2000 en quatre volumes. Et Marjane Satrapi, en fait, elle a consigné ses souvenirs d'enfance et d'adulte dans ses dessins en noir et blanc, au trait épuré. C'est vraiment une adaptation fidèle de la BD. La gageur, c'était finalement d'utiliser l'humour dans une histoire aussi tragique, hein, celle d'un pays en guerre, de l'exil de ses habitants. Mais c'est sans doute réussi parce que c'est montré du point de vue d'un enfant. Hein, voilà, c'est le regard d'un enfant. Et au départ, Marjane, elle a 8 ans. Elle est fan de Bruce Lee. Elle est fascinée par l'engagement politique de son entourage. Et elle devra partir en exil, sans jamais renoncer à l'espoir d'un avenir meilleur pour son pays. Donc, Bénédicte, pourquoi ce choix ?
Eh bien, pour certaines raisons que vous avez citées, parce que d'abord, c'est le regard d'une enfant dans une période cruciale à ce moment-là de l'Iran, c'est-à-dire le départ du Shah, l'espérance pour beaucoup d'Iraniens d'une politique nouvelle et leur grande déception avec l'arrivée des frères musulmans au pouvoir. Et du coup, le regard de cet enfant permet effectivement cette distance. Donc, j'adore son dessin, il est simple, il est épuré, il va droit au but. Elle me fait penser parfois à Riyad Satouf aussi, avec cette capacité à pouvoir raconter des choses de l'enfance, d'un point de vue vraiment d'un enfant, mais qui nous laisse adultes avec elle. Donc voilà, j'ai aimé ce film pour ça, parce que je ne me lasse pas de le revoir quand il passe. Là, on va le repasser au cinéma Saint-Paul, justement, dans le cadre de séances scolaires.
D'accord.
Hein, pour les collégiens ou les lycéens, ça je ne me rappelle plus. Mais du coup, je vais le revoir avec plaisir. On peut le représenter. Parce que c'est aussi la parole à des enfants, parce qu'elle s'exprime sur ce qu'elle vit. Mmh. Et puis là aussi, c'est le regard décalé aussi, puisque quand elle va se trouver en exil, elle va être vue par d'autres qui la voient un peu, effectivement, venant, comme elle dit, d'un pays un peu de fou. Et elle recale ça. Non, c'était des gens cultivés, c'était des gens qui se sont battus pour la liberté. Et puis qui en résonance avec l'actualité du mouvement Femmes, Vie, Liberté.
Oui.
Voilà, c'est un très beau film.
Oui, tout à fait.
Qu'il ne vieillit pas.
Effectivement, il ne vieillit pas. On le revoit toujours avec grand...
Donc je suis curieuse quand on va le présenter justement à des jeunes, comment ils l'auront travaillé avec leurs professeurs. C'est une occasion pour eux aussi de s'ouvrir à l'Iran aussi, voilà, au Moyen-Orient.
Oui. Il y a des idées assez inventives aussi dans le film, je trouve. Par exemple, les yeux qui continuent à briller dans le noir.
Oui.
Ça, c'est assez étonnant. Il y a le passage de figures figées, qui représente sans doute le régime,
le
conservatisme du régime, au mouvement. Alors, on l'a entendu dans le teaser, dans la bande-annonce, les musiques, hein, Eye of the Tiger qu'elle chante, ça c'est très, 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 très drôle. Elle danse aussi à un moment dans le film sur cette musique. Il y a ce contraste entre image figée et puis image en mouvement.
C'est inventif et ce n'était pas si courant à l'époque pour un dessin animé d'être cette capacité à pouvoir représenter des événements dramatiques.
Oui.
Avec de la distance.
Oui.
Bon, après, il y a d'autres films qui ont utilisé ce procédé, mais ça permet une distance qui aussi rend supportable parfois des événements tragiques. Hein, donc là aussi, elle rend accessible ce qui pouvait être la guerre, mais il y a toujours cette dose d'humour, parce que je pense qu'elle l'avait, elle vient d'une famille aussi cultivée, et puis elle a été valorisée dans ce qu'elle était comme petite fille. C'est intéressant pour ça.
Alors moi, j'ai juste un bémol sur ce film. C'est que j'aurais aimé entendre du persan. J'aurais aimé entendre la langue du pays, parce que je trouve que ça aurait donné un côté plus authentique au personnage.
Alors, je suis d'accord, parce que moi, j'ai vu un film aussi qui s'adresse aux enfants, qui s'appelle La princesse d'Alep, où qui raconte le départ dramatique, l'exil dramatique d'une famille syrienne, des grands-parents avec une petite fille pendant la guerre. Mais par contre, effectivement, on entend la langue, on entend l'arabe à différents moments, pour des chansons, pour les gens qui parlent, la famille qui parle entre elles. Et effectivement, ça apporte quelque chose. Et ça a permis aussi, quand on l'a présenté au cinéma, qu'on puisse spécifier à des enfants quelle langue on entend, quelle langue vous allez entendre de l'arabe. Et d'avoir des enfants qui disent, moi je parle arabe ou je vais comprendre l'arabe. Et effectivement, oui, ça peut être
un bémol, on va dire.
Ben oui, quelque chose, un petit bémol. Ouais,
qui n'enlève en rien la créativité, l'inventivité de ce film, toujours aussi agréable à revoir. Et il y a un film iranien en ce moment qu'on peut aller voir aussi, qui est, vous l'avez vu peut-être,
Pas encore, non.
Les graines du figuier sauvage.
Alors, pas encore. Ouais,
il va passer à Saint-Paul.
Il va passer au Saint-Paul.
D'accord, il va passer au cinéma Saint-Paul. Voilà, on attend avec plaisir. Oui. Et maintenant, on vous embarque par là.
Not salsa, not flamenco, my brother. Do you know? Natu?
What is Natu? Polam gattu dummulo na potla gitta duki nattu pole ramma jataralo pota raju ginattu kirru seppulesu kori karra samu zesinattu marri sottu nilolo na kurra gumpu koodinattu erra jonna rottelo na mirapa tokku kalivinattu na paata sudu naattu 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 kila naattu 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 kura naattu
this nonsense. You two, out.
No, Jake. I've had enough of your bullying.
Oh, Ray! No. Go.
పడేలాగా కీసు బిట్ట కూసినట్టు చేలు సిటికెలేసేలా వ్యాపారం సాగినట్టు కాలు సిందు తొక్కేలా దుమ్మారం రేగినట్టు ఒళ్ళు చెమట పట్టేలా వీరంగం చేసినట్టు.
Alors cette chanson Natu Natu, pas difficile de retenir le titre. Elle est au centre du film indien RRR, qui est un film épique et historique sur l'époque de la colonisation et les prémices de la décolonisation dans les années 20. C'est un film qui a eu un grand succès. Et la chanson a obtenu l'Oscar, celle qu'on vient d'entendre, l'Oscar de la meilleure chanson de film en 2023. C'est aussi d'un film indien dont Sylvie veut nous parler, souhaiterait nous parler, mais assez éloigné de l'ambiance de RRR et de Bollywood. C'est le film Santosh qui est sorti en 2024 de Sandhya Suri, qui a été présenté à Cannes dans la section Un certain regard. Et c'est l'histoire d'une jeune femme, Santosh, dans le nord de l'Inde, qui, à la mort de son mari policier, mort pendant une émeute, hérite du poste de son mari et devient à son tour policière. C'est dans le cadre de ce qu'on appelle le recrutement compassionnel, où la femme peut hériter du métier de son mari. Donc Santosh, elle enquête sur le meurtre d'une jeune femme qui est issue d'un milieu pauvre et méprisé. Et elle découvre une société qui est minée par la misogynie et par l'intolérance. Au départ, la réalisatrice, elle voulait faire un documentaire sur les violences faites aux femmes. Et puis, elle a vu les images de manifestations en Inde suite à un viol collectif qui a lieu à Delhi en 2012. Et elle a vu, lors de ces manifestations, le visage d'une policière qui encadrait les manifestants. Et là, elle a décidé de faire un polar de ce sujet des violences faites aux femmes. Donc, c'est filmé dans les décors naturels de l'Uttar Pradesh. Et elle a été formée en Angleterre, ça c'est assez intéressant, à la National Film and Television School. Et puis le film, il a été produit par la BBC. Elle explique que les temps sont durs pour les films d'auteurs en Inde, dans les salles. Et donc, il est plus facile de trouver des financements à l'extérieur. Sylvie, mais pourquoi ce choix?
Alors, c'est un film que j'ai vu au 14A cet été. Et c'est vrai que le cinéma indien m'intéresse. J'ai vu déjà pas mal de films. Dans Santosh, ce que j'ai aimé particulièrement, c'est ce duo de femmes. Alors, Santosh est une femme qui, au départ, s'engage dans une voie qu'elle connaît pas du tout. Hein. Elle est obligée de faire face à sa situation. En fait, elle, au départ, elle va chez dans sa belle-famille qui l'accueille pas bien du tout. Donc, elle décide de prendre le poste qu'on lui propose. Et là, ça va être la trajectoire d'une femme qui va découvrir un monde qu'elle ne connaît pas, un monde professionnel, la cohabitation avec une chef assez dure, assez brutale, mais qui va en même temps la prendre sous son aile pour lui apprendre le métier. Et progressivement, on va la voir évoluer dans cette vie, et jusqu'à devenir elle-même assez dure, hein, puisqu'on assiste à une scène de torture d'un jeune homme qui est soupçonné d'être l'assassin de la jeune fille qui a été retrouvée morte et qui en fait a été choisi, enfin, ou élu on va dire, parce qu'il était tout simplement musulman. Et donc on a aussi dans ce film-là tout ce qui porte sur les discriminations à la fois religieuses, raciales, sur les minorités, puisqu'en fait c'est un film aussi sur les minorités, donc c'est une dénonciation, c'est un peu le miroir de la société indienne, hein. Et donc on a quelque chose d'assez dur. C'est un film qui est effectivement très 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 rude, et en même temps qui dénonce toutes ces problématiques sociétales,
oui,
en Inde, puisque très peu de temps après, je crois 2 ou 3 jours après avoir vu le film, j'ai entendu à la radio qu'une femme, une avocate, avait été violée, assassinée. Et donc c'est le lot, pas quotidien, mais presque, de beaucoup de jeunes filles en Inde, et notamment dans les minorités. Hein,
Ouais. Pas qu'en Inde, malheureusement.
Non, pas qu'en Inde. Alors, c'est ce que dit la réalisatrice,
ouais,
d'ailleurs.
C'est, ça. C'est intéressant parce que c'est un côté un peu universel. Aussi dans cette dénonciation. Alors, il y a une scène en particulier que je trouve assez admirable, qui montre que finalement, le cinéma, ça permet de dénoncer des choses sans paroles forcément vindicatives, sans discours préétablis, théorique. Elle est attablée dans un restaurant et il y a un homme qui la regarde de façon très insistante, regard assez lubrique, on va dire. Et sa façon à elle de résister, c'est de se mettre à mâcher son plat de lentilles très lentement, à regarder l'homme et à cracher ce qu'elle vient de mâcher.
À vomir.
Et à vomir, quoi. Mmh. Et ce crachat, c'est finalement un cri de colère. Et dans lequel beaucoup de femmes peuvent se retrouver. Donc, c'est des outils aussi qu'elles nous montrent de dénonciation de ces violences, de ce sexisme dans cette société.
Oui.
Alors, Santosh, je ne sais pas si vous allez programmer à Saint-Paul, si vous l'avez déjà
programmé. Il a déjà été programmé.
D'accord. Okay, bon,
la semaine dernière, je crois bien.
Ah, voilà. Bon, écoutez, on peut le retrouver ailleurs, certainement.
Encore,
oui, tout à fait. Et vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Filmez-moi sur Jet, en compagnie de Sylvie Vinette et Bénédicte Chetano, bénévoles au cinéma Saint-Paul à Rezé.
Avec ses 4 dromadaires, Pedro d'Alfaro Berra courut le monde et l'admira. Il fit ce que je voudrais faire si j'avais 4 dromadaires. J'avais 4 dromadaires.
Ce qu'on vient d'entendre, c'est une des chansons du film Camille Redouble. La musique a été composée par Gaëtan Roussel. Camille Redouble, c'est un film de 2012 de Noémie Lovski. Et il reprend le principe du film de Coppola, Peggy Sue s'est mariée. Noémie Lovski, elle joue le rôle principal, celui de Camille, une actrice un peu ratée, la quarantaine, qui se fait quitter par l'homme de sa vie. Et pendant une fête de nouvel an, chez des amis, aux 12 coups de minuit, elle s'évanouit et se réveille dans les années 80. Elle a 16 ans, elle retrouve ses parents, ses copines, et malgré son corps de femme, ses proches la traitent comme une ado. Elle en adopte tous les comportements, entre fringues, punk, réparties cinglantes aux adultes, déhanchements désinhibés sur la piste de danse. Et ce sont aussi d'émouvantes retrouvailles avec la jeunesse de ce personnage et tout ce qui a été aussi anéanti, par exemple ses parents morts et soudain vivants devant elle. Elle enregistre ses parents, ils sont interprétés par Yolande Moreau et Michel Vuillermoz. Elle les enregistre pour garder précieusement la trace de leur voix. Elle retrouve la fraîcheur, l'excitation des premières rencontres. Et puis, elle retrouve aussi son mari au tout début. Mais elle refuse de succomber à nouveau, furieuse qu'il ait abandonné. Alors, Bénédicte, pourquoi ce choix de Camille Redouble ?
Alors, quand vous m'avez posé la question de sélectionner quelques films qui m'avaient intéressée, celui-ci m'est parvenu d'emblée. Mais après, je me suis rendu compte, en réfléchissant, que c'était un film qui m'a quand même marqué par sa thématique. En fait, quand je l'ai vu la première fois, c'est un film qui m'a distraite. J'aime beaucoup Noémie Lvovsky, j'ai aimé le jeu, j'ai aimé son rapport avec sa maman, mais je ne peux pas dire que je n'aurais fait une analyse complète. Par contre, c'est un film qui m'a marqué dans le temps, parce qu'il est vraiment ce moment, peut-être c'est aussi dû à mon âge, quand on a perdu ses parents, effectivement de vouloir à un moment retourner, si c'était possible, de reculer justement comme elle l'a fait. Parce que elle, effectivement, les autres la voient comme une ado, comme l'ado qu'elle était. Mais elle, elle sait bien que c'est une femme de 40 ans. Elle sait que le temps a avancé, elle s'en rappelle. Elle sait que sa mère va mourir, elle sait que ça va être bientôt, elle sait peut-être que c'est ce jour-là. Et c'est justement ce regard qu'elle a sur la préciosité de ces moments-là. Et c'est un film qui, par ce sujet très sensible, elle l'interprète, c'est drôle, c'est amusant, elle l'interprète très bien, on croit à son personnage d'adolescente, alors qu'on la voit telle qu'elle est. Mais c'est juste cette possibilité, est-ce que ça ne nous serait pas donné à nous aussi un jour de pouvoir juste retourner un petit instant en arrière, ne pas refaire les mêmes erreurs, ou alors vraiment profiter de ceux qu'on aime et qu'adolescente, on a plutôt rejeté. Donc voilà, c'est ce hiatus. Le thème est original sans l'être forcément complètement. On pense aussi au jour de la marmotte, où il refait sans cesse la même journée jusqu'à temps qu'il la vive parfaitement. Mais voilà, c'est cette sensibilité-là qui m'a plu. Et puis j'aime beaucoup Noémie Lvovsky dans ses films, comme actrice, qu'elle réalise. Donc voilà mon choix.
D'accord. Alors c'est vrai qu'il y a eu d'autres films qui ont utilisé ce thème du voyage dans le temps. Voilà. Bah, on pense aux Les Visiteurs, par exemple. On pense à Un jour sans fin aussi. Voilà, L'Armée des douze singes aussi. Il y a d'autres. Le Retour vers le futur aussi.
Voilà, sur un thème différent.
Un thème différent, mais voilà, voyage dans le temps. Voilà, voyage que ce soit dans le passé ou dans le futur. Et puis, arrêter la marche du temps. L'arrêter, en fait, on en a tous finalement rêvé. Et puis seul le cinéma peut le faire. C'est la magie
du
cinéma.
Ça n'existe pas dans la vraie vie.
Donc, ça vaut le coup de se laisser embarquer à nouveau dans ce voyage dans le temps, drôle et touchant.
Et touchant, oui.
Estava na estreita com meu calango, pra ver se um dia uma vai chegar no sertão. Passaram as luas entre as estrelas, eu não senti água tocar na minha pele.
Tem chuva enfurecida no alemar, ilha de gelo flutua no oceano. Nesse meu sertão vivo esperando uma gotinha pra molhar a plantação.
Mas o sertão virá o mar,
vamos aprendendo a dar as mãos.
Mas se o mar virá sertão,
caminhar junto faz tão bem pro coração.
Mas se o sertão virá o mar,
vamos aprendendo a dar as mãos.
Mas se o mar virar sertão,
caminhar junto faz tão bem pro coração.
Alors, Sylvie, est-ce que tu as reconnu ce teaser ?
Une musique brésilienne.
Ouais. 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 Alors, en fait, c'est le teaser de l'édition 2024 du Festival de Douarnenez. Voilà. Parce qu'il était consacré au Brésil. Et donc, ce festival de Douarnenez, il existe depuis 1978. Il a lieu à la fin du mois d'août, tous les ans. Et il s'intéresse aux peuples et aux minorités du monde et aux identités de genre. Leur credo, et je trouve ça assez joli, c'est lianage. Lianage, c'est un mot créole qui veut dire relier, nouer, faire vivre ensemble. Donc depuis plus de 40 ans qu'il existe, les Roms, les Kanaks, les Catalans, les Palestiniens, les Bretons, les voyageurs, les Aborigènes, les Berbères, les Trans, tous ont été conviés à travers des films dédiés, courts ou longs métrages, films d'animation, films documentaires, loin de toute condescendance, de tout misérabilisme, et la plupart du temps filmés par des réalisateurs ou réalisatrices issus ou proches de ces communautés. Donc le festival il se situe à la croisée des frontières et il a la question des droits humains au cœur. Il s'intéresse donc particulièrement aux endroits où les droits civiques sont menacés. Alors Sylvie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que je crois que tu es allée plusieurs fois au festival de Douarnenez. Et qu'est-ce que tu apprécies dans ce festival?
Oui, alors cette année, c'était pour moi la troisième fois. Donc ce que j'apprécie, c'est qu'il y a une diversité de films, que ce soit des documentaires, des fictions, des films d'animation, pour tout public. C'est un festival qui est assez militant en fait, hein, et donc on peut s'y retrouver. Et cette année, effectivement, j'ai vu, alors je ne sais pas si c'est de cela que tu veux parler, un documentaire qui m'a marqué aussi, oui, qui s'appelle Samuel et la lumière.
Oui, c'est toi qui m'en as parlé, hein, tu m'as dit, ouais, ce film-là, il m'a vraiment... Il m'a plu. Voilà, c'est un film de Vinicius Guirnis hein, qui date de 2023. C'est un film documentaire hein, qui se déroule sur la Costa Verde au Brésil, à l'ouest de Rio, dans un petit village qui s'appelle Ponta Negra. Ouais. Et le réalisateur, c'est toujours intéressant, je trouve, dans un film documentaire, le rapport au temps. Le réalisateur, il a filmé les habitants pendant 6 ans. Et en particulier, Samuel, il avait 5 ans quand il a commencé à tourner le film. Donc, il a tourné Samuel, il a suivi Samuel et sa famille. Et alors, pourquoi Samuel et la lumière? La lumière, elle est vraiment un élément central du film. Samuel, il est fasciné par la lumière. Il y a beaucoup de plans qui sont filmés à la bougie. Mais la lumière des bougies, elle est remplacée petit à petit au fil du temps par la lumière des écrans. Et on voit l'afflux de touristes qui arrivent un peu du monde entier. Ça crée des tensions entre les habitants. On voit le problème de la pêche aussi. Donc les habitants sont majoritairement pêcheurs, mais les poissons se font de plus en plus rares. La nourriture, elle est de plus en plus importée et on voit un mode de vie finalement qui disparaît lentement. Il y a aussi un contraste, je trouve, entre l'insouciance de l'enfance hein, et la violence entre les adultes générée par des conditions de vie très, très difficiles et assez, assez, assez précaires. Donc Sylvie, pourquoi tu as choisi ce film? Pourquoi il t'a marqué?
Un petit peu pour toutes les raisons que tu as données aussi. Oui. Là, en effet, hein, c'est un film aussi qui, comme tu le disais, qui a été réalisé sur la durée, hein, pendant 6 ans. Ce réalisateur donc suit la famille, vit avec eux, et ça permet de bien comprendre l'évolution en fait des différents membres de la famille, des relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres, parce que c'est quand même assez centré sur une famille, même si on voit l'ensemble du village dans le film. Et on a, alors il n'y a pas forcément beaucoup de dialogue, hein, il y a très très peu de mots, mais tout est dans l'image, avec des choix d'image très très sélectionnés, de manière à nous donner des brefs aperçus de cette évolution et de cette modernité qui va remplacer effectivement, qui va être d'abord rêvée. En fait, hein, tout au long du film, il y a tout le temps cette phrase, c'est « ce sera mieux après ».
Oui, c'est-à-dire l'arrivée de l'électricité
va arriver. Donc, et on voit donc cette espèce de village et un petit peu, pas, pas idéalisé vraiment, mais c'est un espèce de paradis, un petit Éden sur Terre. Hein. On est sur une côte extrêmement belle, avec une forêt luxuriante juste derrière. Et la famille, on a l'impression que cette famille, en tous les cas, vit bien, en harmonie avec la nature, comme tu disais, les enfants, dans une espèce d'insouciance, avec derrière, malgré tout, toutes les difficultés hein, du père qui pêche, qui a des difficultés à ramener à la maison ce qu'il faut, mais dont il se contente. On voit un repas à un moment donné partagé par la famille et avec plaisir. Les enfants jouent autour d'une, s'amusent et discutent le soir autour d'une bougie. Le père apprend à son fils quels sont les noms des poissons, etc., et à les reconnaître. Et donc on a l'impression de quelque chose qui est assez heureux et qui va progressivement effectivement se déliter vers. Il va y avoir tout ce qui va être apport du modernisme, les écrans dont tu parlais. Donc les enfants vont plus forcément être autour de jeux dans la nature, mais plutôt le regard fixé sur les écrans. Et on voit cette lumière, effectivement, dont tu parlais, qui change. Hein.
La question, c'est peut-être aussi l'impact du progrès, qui est une notion finalement relative sur ces populations qu'ils ne choisissent pas forcément, qui espèrent sans doute des choses, qui peuvent être déçus parce que ce que ça apporte, et puis qui appréhendent ces changements de vie de façon très différente aussi d'un individu à l'autre.
Oui, à la fois dans leur vie quotidienne, tout ce que ça peut apporter comme... comme changement pour la vie quotidienne, hein, la machine à laver, enfin le frigidaire, et en même temps tout ce que ça va apporter comme chose négative. Quoi. On voit comment ils vont être accros à certaines choses. Voilà.
Ouais, tout à fait. Alors, le festival de Douarnenez, ce beau rendez-vous de la fin de l'été, courez-y. L'ambiance, on n'a pas parlé de l'ambiance, est-ce que tu veux en dire quelques mots ?
Oui, alors avec une population très mixte, enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est que beaucoup de films sont présentés dans la langue des signes. Donc on voit beaucoup dans la ville de gens qui parlent cette langue, c'est assez drôle. On a ramené nous-mêmes en covoiturage une femme qui était venue de Marseille pour pouvoir... Donc ça génère effectivement un mélange de populations qui... Beaucoup de gens d'un certain âge, il y a pas mal de retraités qui sont là, beaucoup de bénévoles aussi. Hein, ça fonctionne comme ça, c'est quand même la 46e édition. Donc une ambiance avec des tables rondes aussi, en fait, il y a beaucoup de réalisateurs qui sont présents. Donc il y a beaucoup d'échanges à l'issue des films, mais aussi des tables rondes qui sont organisées pour évoquer un ensemble de problématiques liées au thème même des films qui sont projetés. Quoi.
Alors c'est très convivial, donc tu disais il y a une programmation qui est très riche, il y a aussi de la musique, il y a des concerts, il y a de quoi danser, il y a de quoi se restaurer, on peut même y aller en famille. Hein. Donc c'est vraiment un festival qui vaut la peine, ça vaut vraiment la peine de se déplacer. On ne connaît pas encore le thème de l'année prochaine,
hein,
quel sera le peuple invité, convié au festival, mais n'hésitez pas. Courez-y. Vous êtes toujours dans l'émission Cinéma mensuel Film et moi sur Jet et nous sommes toujours en compagnie de Sylvie Vinette et Bénédicte Chetano, bénévoles au cinéma Saint-Paul à Rezé.
I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class. Ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back.
my feet, got my toes, got my liver, got my blood. I've got life.
Parlons maintenant du cinéma Saint-Paul, qui se situe à Rezé. Bénédicte, Sylvie, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord comment vous êtes arrivée jusqu'au cinéma Saint-Paul en tant que bénévole ? Sylvie.
Alors, déjà, c'est un cinéma qui se trouve à Rezé. J'habite Rezé, donc tout naturellement. J'habite à 5 minutes quasiment à vélo du cinéma, donc il y avait la proximité. En dehors du fait, bien sûr, que j'aime le cinéma et que je me trouvais à la retraite. Et donc, une amie qui faisait déjà partie, qui était déjà bénévole dans ce cinéma, m'a invitée à venir y prendre place. Et voilà pourquoi, mais au départ, parce que j'aime le cinéma, tout simplement.
D'accord. Est-ce que tu te souviens du premier film que tu as vu et à quel âge ?
Du premier film ?
Oui.
Oui, alors en fait, moi j'habitais dans le quartier Saint-Jacques, donc tout près du cinéma Bonne Garde, qui est aussi un cinéma associatif.
Qui existe toujours.
Qui existe toujours et qui est très dynamique également. Et il se trouve que mes deux sœurs aînées étaient ouvreuses dans ce cinéma.
D'accord, c'est une histoire de famille alors ?
Un petit peu, ouais. Et donc j'y ai vu pour la première fois, je crois, Il était une fois dans l'Ouest.
Ouais,
bon. Jeune enfant, je ne sais plus à quelle année est sorti ce film, mais c'est déjà ancien.
Et toi, Bénédicte, tu te souviens du premier film que tu as vu ?
Ah oui, tout à fait. Moi, j'étais toute petite parce que ma mère aimait beaucoup le cinéma et ma jeune tante aussi. Et elle m'a emmenée voir mon premier dessin animé à Walt Disney que j'ai tous vu à l'Apollo à Nantes.
L'Apollo. Alors, l'Apollo qui a
club,
disparu.
Qui a disparu. L'Apollo, c'est le club. Non.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites en tant que bénévole dans ce cinéma, Sylvie ?
Alors, moi, je suis ouvreuse dans une équipe. Donc, il y a cinq équipes, six en fait, oui, si on compte celle dans laquelle toi, Bénédicte, d'ailleurs, tu es, qui est celle de jour. Sinon, il y a des équipes du soir. Et donc, dans ces équipes-là, il y a des caissières, des ouvreuses et des projectionnistes. Et moi, je suis ouvreuse. Et donc, j'accueille tout simplement les clients. Et voilà, ça c'est un premier rôle, on va dire.
Alors tu n'es pas à la caisse, hein, tu es...
Non, moi je suis ouvreuse, c'est-à-dire que je prends les billets tout simplement.
Ouais, d'accord.
Et je dirige les gens vers la salle.
Vers la salle. Il y a combien de salles ?
Une.
Il y en a une, d'accord, ok. Et toi Bénédicte alors ?
Alors moi au départ, on commence dans l'association, donc je suis arrivée il y a 3 ans. Au départ, on est souvent la plupart du temps ouvreuse, c'est-à-dire qu'on accueille les spectateurs. Mais après... On prend, effectivement, moi, c'est l'équipe de jour. Donc, l'équipe de jour, c'est un petit peu différent parce que nous, on couvre tous les films qui passent la journée. Et c'est tout l'accueil des scolaires qui vont de la maternelle au lycée. Et donc, il faut assurer toutes les séances, hein, parfois dès 9h30 le matin. On a une séance, l'après-midi dès 14h30. On assure aussi tout ce qui va être les après-midi, donc aussi bien l'accueil de l'association comme Rezé Senior. Et puis, on a aussi les films, quand, par exemple, dans ce qu'on appelle le programme ciné-loustique pour les jeunes. Hein, eh bien, on fait aussi l'après-midi avec, parfois, des animations.
C'est presque un temps plein, là.
Ça peut être un temps plein. Mais alors, l'équipe de jour est majoritairement composée de gens à la retraite.
D'accord.
Donc, ils laissent une plus grande disponibilité. Oui. Je dis majoritairement, parce que pas totalement, quand même.
D'accord. Alors, justement, Sylvie, les bénévoles, donc Bénédicte nous a dit qu'il y avait des retraités, mais pas que, il me semble. Hein.
Non, il y a des jeunes aussi, trentenaires, quarantenaires. Enfin voilà, il y a un renouvellement tous les cas.
Alors qui eux du coup ne peuvent pas venir être présents dans la journée au
cinéma.
Mais qui
sont là le soir.
Oui, le soir. Et qu'est-ce qu'ils font d'autre ?
Qu'est-ce qu'ils font d'autre ? Alors on a beaucoup de commissions en fait dans lesquelles interviennent les bénévoles. On a une commission communication, une commission ciné-choix, donc dont on parlera peut-être un petit peu. C'est-à-dire que là il s'agit de choisir les films qu'on va amener dans notre programmation. Cinéminos, dont on parlait tout à l'heure, c'est une commission jeunesse, hein, dans laquelle toutes les deux nous trouvons. Bref, des commissions trésorerie, finance, voilà, tout ce qu'on peut imaginer pour le fonctionnement d'un cinéma. Et donc, les jeunes y participent. Et depuis quelques temps, c'est vrai qu'il y a un nouvel élan qui a été donné, notamment avec le recrutement d'une directrice du cinéma, qui est la seule salariée du cinéma.
Quelqu'un qui dirige le cinéma et qui va aussi servir de liant ou de lien entre tous les bénévoles, parce que 130 bénévoles voilà. Énorme. C'est pas elle qui les gère, mais elle fait le lien quand même avec tout ce monde. Et puis, elle impulse aussi des idées, puisque c'est une professionnelle qui a déjà travaillé dans un cinéma avec les distributeurs de films, et ainsi de suite. Et puis, les jeunes, oui, ce qu'ils ont apporté aussi, c'est quand même le renouvellement. Il y avait un vieux bar au cinéma Saint-Paul.
Oui, qui a été inauguré, le
tout
nouveau,
à fait,
là,
qui a été inauguré il y a peu de temps. Et là, vraiment, on peut dire, c'est impulsé par une bénévole du cinéma, Anne Remot et bien d'autres, mais qui ont vraiment renouveler le bar et puis rénover entièrement et redonner en gardant l'esprit des années 50, l'esprit de la création, tout en permettant d'en faire un lieu qui est ouvert le week-end, s'il y a des bénévoles pour le tenir, mais une heure avant le film, une heure après le film.
D'accord.
Pour l'instant.
Okay. Alors, les films, comment sont-ils choisis ?
Les personnes regardent les films, essayent de regarder en prévisionnement, regardent des bandes-annonces.
Prévisionnement, c'est
très prévisionnement, alors c'est des moments où tous les programmateurs de salles associatives se retrouvent et peuvent voir sur la journée 4 films au moins.
Et ça, c'est organisé, il me semble, par le cinématographe, qui a pour mission, à travers le Scala, c'est ça ?
C'est ça.
Qui est missionné,
c'est pour le cinéma scolaire.
Voilà, qui est missionné par le département pour faire du lien, créer un réseau de tous ces cinémas associatifs et leur montrer des films.
Voilà, exactement. C'est une discussion entre eux, et puis le choix émerge pour essayer de satisfaire aussi bien des films pointus, qui peuvent être l'objet d'un débat. Donc, il y a une commission aussi qui s'appelle Ciné-Débat, avec le film suivi d'un débat avec des invités extérieurs, mais aussi des films grand public. Nous, on est plutôt dans les choix pour le ciné-jeunesse. Mais voilà un petit peu comment c'est choisi. Ce que nous savons, c'est que c'est une commission où il y a beaucoup de discussions.
Oui, j'imagine.
Voilà.
Tout le monde n'est pas forcément d'accord.
Tout le monde n'est pas forcément d'accord.
Il faut réussir à
se
mettre d'accord.
C'est ça. Ouais. Ils arrivent à se mettre d'accord puisque le cinéma a une bonne programmation.
Ouais. Et c'est un principe un peu démocratique, on va
c'est
dire.
Ça. Ouais. C'est ça. Tout à fait.
Ok. Sylvie, est-ce qu'il y a des événements à venir au cinéma Saint-Paul à Rezé dont tu es retrouver sur le site.
Alors, le site.
Je vous conseille d'y aller parce que c'est un super site. Franchement, tout ce qu'il faut, il est très agréable aussi.
Qui a été aussi complètement remanié, restauré. On a une programmation aussi papier qui a été aussi rénovée, là, qui est toute nouvelle depuis septembre.
Merci à vous. Merci Sylvie.
Avec
merci
plaisir.
Bénédicte d'être venue jusqu'à nous. Et longue vie au cinéma Saint-Paul
c'est
de Rezé.
C'est ce que nous lui souhaitons.
Et longue vie à tous les cinémas associatifs de la région et à leur belle dynamique. Tournons-nous maintenant vers l'agenda de cinéma. En novembre, à Nantes et dans les environs, ce que le cinéma pourra faire pour vous, c'est vous faire voyager sur 3 continents à la fois avec le Festival des 3 continents du 15 au 23 novembre dans plusieurs cinémas de Nantes. Vous entraîner dans un tourbillon hilarant avec une Cendrillon des temps modernes dans Anora de Sean Baker, la Palme d'Or 2024 à Cannes. Vous offrir des éclats de beauté en sororité avec All We Imagine As Light de Payal Kapadia, Grand Prix du jury à Cannes 2024. Vous plongez dans une sidérante histoire de reconstruction avec le poignant documentaire de Claudia Marshall, La Déposition. Il est temps maintenant de se quitter sur ces quelques conseils de films qui ne pourront que réjouir vos pupilles. Merci à Émile, à l'accompagnement technique avec nous aujourd'hui. Et retrouvons-nous pour un nouveau film et moi sur Jet en novembre. C'était Film et moi, l'émission cinéma mensuelle sur Jet 91.2. Retrouvez-nous aussi en podcast sur le site de Jet, jetfm.fr.